Vous aimez la littérature?
Vous voulez essayer de faire de la littérature? Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Essayez de cambrioler un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Oui, alors aujourd'hui, mes chers auditeurs, j'avais plusieurs possibilités, mais j'ai choisi de vous parler d'un livre qui vient de sortir, de quelqu'un qui est à nouveau professeur au Collège de France, décidément, et qui s'appelle Pierre Rosanvallon, et dont je vous avais parlé il y a quelque temps, à propos d'un livre précédent qui parlait de, disons, de l'analyse politique qu'il faisait des 50 dernières années, hein, en gros de 1968 à 2018. Et aujourd'hui, il a publié un livre qui s'appelle « Le siècle du populisme », où il examine la manière dont ce phénomène qui est récurrent dans la politique actuelle, chacun accusant les autres de populisme, etc., lui va effectivement décrire une espèce d'itinéraire historique montrant qu'il y a eu différents populismes, généralement avec une naissance qu'il situe dans la deuxième partie du XIXe siècle en Russie, mais on retrouve ces éléments du populisme effectivement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, à la fin du XIXe siècle, mais on retrouve ça aussi au cours du XXe siècle, avec en Argentine, par exemple, ou dans des pays d'Amérique latine, etc. Mais son itinéraire l'amène peu à peu à essayer d'expliquer pourquoi, effectivement, le populisme peut être l'expression d'une espèce de désenchantement, une espèce de refus ou de la part des électeurs d'avoir des points de repère qui permettent effectivement de continuer à participer à cette démocratie. Et il essaie de montrer que peut-être ce populisme, c'est le symptôme, un espèce de désenchantement démocratique, ou bien l'émergence d'inégalités galopantes, ou bien la constitution d'un monde des invisibles, ou bien sonner le tocsin sur la menace qu'il représenterait. Et puis, il a cette phrase terrible, il dit « Pour cela, l'idéologie ascendante du XXIe siècle, à l'heure où les mots hérités de la gauche semblent erronément résonner dans le vide. » Je vais vous lire une partie de sa conclusion, qui n'est pas, où le mot « populisme » n'est pas directement cité, mais où effectivement il fait une référence particulière à ce problème de démocratie. Il dit « Démultiplier les procédures et les institutions démocratiques implique encore de ne pas en rester à une démocratie d'autorisation, c'est-à-dire à la délivrance électorale d'un permis de gouverner. Ce sont les conditions d'exercice du pouvoir qui doivent aussi obéir des critères démocratiques. Si la vie politique s'organise autour d'institutions définissant un type de régime, elle est en effet également action gouvernementale, c'est-à-dire gestion quotidienne de la chose publique, instance de décision et de commandement. Elle est le lieu d'un exercice du pouvoir, celui qu'on appelle en termes constitutionnels le pouvoir exécutif. C'est à lui que les citoyens ont immédiatement et quotidiennement affaire. Le centre de gravité de l'exigence démocratique s'est, du même coup, insensiblement déplacé à l'heure de la montée en puissance de cet exécutif. Au-delà de la détermination d'un lien rapproché entre les représentants et les représentés, c'est dorénavant aussi le rapport des gouvernants aux gouvernés qu'il faut faire entrer en démocratie en considérant celle-ci comme la qualité d'une pratique. Pour les citoyens, le défaut de démocratie signifie en effet ne pas être écouté, voir les décisions prises sans consultation, des ministres ne pas assumer leurs responsabilités, des dirigeants mentir impunément, constater que la corruption règne, voir une classe politique vivre en vase clos et ne pas rendre assez de comptes à un fonctionnement administratif resté opaque. D'où la notion de démocratie d'exercice à laquelle il convient dorénavant de donner corps. Une telle démocratie d'exercice pourrait être envisagée dans deux directions. Celle de la formulation de principes devant régir les relations des gouvernants ou gouvernés d'abord. Trois d'entre eux peuvent être considérés comme essentiels. La lisibilité, notion plus large et plus active que celle de transparence. La responsabilité, avec ce qu'elle implique en termes de reddition de comptes et d'évaluation des politiques au-delà de l'acte de démission. Et la réactivité, terme qui traduit le moins mal la notion de responsiveness en anglais. Ces principes dessinent les contours d'une démocratie d'appropriation. Leur mise en œuvre permettait aux citoyens d'exercer plus directement des fonctions démocratiques qui ont longtemps été accaparées par le seul pouvoir parlementaire. Il donne aussi pleinement sens au fait que le pouvoir n'est pas une chose, mais une relation, et que ce sont donc les caractéristiques de cette relation qui définissent la différence entre une situation de domination et une simple distinction fonctionnelle, au sein de laquelle peut se développer une forme d'appropriation citoyenne du pouvoir. La détermination des qualités personnelles requises pour être un bon gouvernant en second lieu. Qualités qui ne doivent pas être appréhendées pour dresser un portrait robot idéalisé, mais pour considérer de façon plus opératoire celles qui sont nécessaires à l'établissement d'un lien de confiance entre gouvernant et gouverné. Pour fonder ainsi une démocratie de confiance, la confiance étant de ces institutions invisibles dont la vitalité a pris une importance décisive à l'âge de la personnalisation des démocraties. Deux s'imposent au premier chef, l'intégrité et le parlevé. La parésia, dont Michel Foucault a rappelé l'importance en Grèce ancienne. Ces principes de bon gouvernement ne doivent cependant pas simplement s'appliquer au pouvoir exécutif dans ses différentes instances. Ils sont aussi appelés à régir l'ensemble des institutions non élues qui ont une fonction de régulation, les autorités indépendantes, les diverses catégories de magistrature et tout le monde de la fonction publique. Ce sont en effet des personnes et des institutions qui exercent d'une manière ou d'une autre un commandement sur autrui et participent de la sorte aux organes gouvernants. Décrivant l'avènement du monde démocratique dont il était témoin, Tocqueville notait « la notion de gouvernement se simplifie. Le nombre seul fait la loi et le droit. Toute politique se réduit à une question arithmétique. » C'est à ce prix aussi que pourront émerger des émotions authentiquement démocratiques, renvoyant à des idéaux de solidarité et de bienveillance qui constitueront un point d'appui pour cette entreprise de mise en œuvre d'une démocratie généralisée et démultipliée.